dans cette émission. On est avec Vanina Bernard-Leoni. Vanina, bonjour.
Bonjour Anta, bonjour tout le monde.
Et bienvenue sur Radio Calvi Citadelle. On va parler avec toi du Fab Lab de Corte qui a été très actif durant ces 2 mois de confinement. Avant ça, Vanina, j'aimerais que tu nous parles de ton confinement, même si évidemment on est dans une période où on sort de ce confinement. Comment est-ce que tu l'as vécu? Comment est-ce que tu as perçu la chose?
Alors, je ne sais pas si j'ai vécu un confinement très classique, puisque tu l'as dit, en fait, assez vite, on s'est retrouvés à être mobilisés, et du coup, physiquement aussi, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je sortais un peu tous les jours pour aller au Fab Lab, soutenir un petit peu l'équipe de production, faire les drives de distribution de dispositifs qu'on fabriquait pour protéger un petit peu les gens en première ligne. Donc, en fait, moi, tous les jours, j'avais, une petite fenêtre d'échappatoire. Sinon, pour le reste, évidemment, comme tout le monde, les joies d'un cercle social très très rétréci. Moi, en plus, j'ai 2 petites filles qui ont beaucoup d'énergie et qui en demandent beaucoup aussi. Donc, des choses positives, évidemment aussi, puisqu'on se recentre un peu sur l'essentiel. Donc, écoute, j'espère que tout le monde pourra essayer de tirer quelque chose d'un peu positif de cette expérience. Mais c'est vrai qu'on est quand même content de pouvoir élargir un peu notre cercle.
Alors, le Fab Lab, c'est un endroit dont on entend beaucoup parler. Donc, Fab comme fabrication, Lab comme laboratoire. Mm-hmm. Est-ce que j'ai résumé la chose?
Ouais, exactement. Oui.
Qui se trouve à Corte?
Oui.
Explique-nous ce qu'est le Fab Lab.
Alors, tu l'as dit, ce qu'il faut retenir d'un Fab Lab, derrière cette abréviation un peu barbare, c'est qu'en fait, c'est un atelier, c'est un lieu où on peut fabriquer toutes sortes de choses. Son intérêt, c'est d'avoir des machines qui sont souvent des machines outils à commande numérique, qui coûteraient peut-être un peu cher pour des particuliers ou des toutes petites entreprises. Et l'idée, en fait, c'est qu'on les met à disposition de tout le monde. En fait, on mutualise des machines outils de la même façon qu'on mutualise des espaces de travail et des équipes qui guident. Donc on a, si tu veux, au Palazzo Nazionale, dans la vieille ville de Corte, un bel espace, puisque c'est tout ce bâtiment historique qu'on a transformé en tiers lieu, en fait, avec Fab Lab et espace de coworking. Et il y a une équipe qui est là pour accueillir, pour former les gens qui le souhaitent sur ces machines. Alors, les machines en question, ça peut être des imprimantes 3D, des découpeuses laser, des fraiseuses numériques, mais il y a aussi un atelier, on va dire, d'outils traditionnels, en fait, pour tous les gens qui ont un goût pour la création, la fabrication, le design, l'artisanat. Il y a pas mal de réponses matérielles, mais aussi des compétences. Puisque je le disais, il y a en temps normal en tout cas des équipes qui sont là pour vous former, pour vous guider. Donc en général, c'est plutôt un lieu qui est un peu comme une ruche avec tout un tas de gens qui portent des projets, parfois personnels, parfois d'entreprise, parfois bien sûr des étudiants. Donc c'est souvent un lieu où se croisent des talents, des porteurs d'initiatives un peu chouettes. Alors évidemment, ça nous manque un peu de pas rencontrer, de pas revoir un peu tous ces gens-là, mais les machines sont restées et effectivement, on a essayé de les faire tourner aussi au cours de ces 2 mois très spéciaux.
Quand tu parles de cette production, est-ce qu'au final, ce qui est produit est ensuite vendu ou alors ça reste, disons, associatif?
Alors en fait, en temps normal, il y a des modes de fonctionnement très différents. Depuis que le Fab Lab existe, donc ça va faire un peu plus de 4 ans désormais, on a la possibilité d'accueillir un peu tous les publics et de plein de façons différentes. On a plein de moments où en fait il y a des formations gratuites, il y a des tarifs ensuite pour la location de ces machines qui sont des tarifs très différents en fonction aussi du statut justement des usagers, c'est-à-dire qu'il y en a pour lesquels c'est gratuit, par exemple les scolaires, les universitaires, des associations avec lesquelles on conventionne, et puis il y en a d'autres qui viennent faire de la location à des tarifs qui peuvent être des tarifs de petites entreprises, qui peuvent être des tarifs de grands groupes. En fait, on essaye d'être au plus juste, si tu veux, puisque comme on est adossé à l'université, évidemment, on n'a pas une, on va dire, une dimension lucrative du tout. Il faut quand même qu'on réduise, évidemment, les coûts qu'on engendre. Il faut qu'on amortisse nos machines, etc. Mais en général, on trouve des solutions. On fait même très souvent une sorte de troc, c'est-à-dire de don contre don, où on peut donner accès aux machines en l'échange d'animations d'ateliers. Enfin, l'idée, c'est que on ne dit jamais non. S'il y a des gens qui ont des projets et qu'en plus ils nous plaisent, et c'est souvent le cas, on s'arrange toujours pour que la dimension financière ne soit pas un obstacle. Après, les gens, par exemple des créateurs ou des artisans qui viennent utiliser ces machines, peuvent eux avoir une activité économique dans la foulée. C'est-à-dire que les objets qu'ils viennent produire peuvent parfaitement être vendus, mais en fait, ça ne nous regarde plus tout à fait.
D'accord. Alors ça faisait un petit moment que je voulais t'interviewer. Alors on s'était vu il y a quelques années de cela à la foire de la Mandie à Rennes, mais ça avait été un peu court. Là, je voulais revenir avec toi sur notamment. Alors il y a eu la production des visières hein, durant le confinement. On en a parlé également ici à Calvi avec ce jeune homme
Michel
Serra, voilà, qui en faisait, et tout ça a été mutualisé. Je voulais revenir avec vous sur ce petit outil que j'ai vu il y a quelques jours sur Facebook, qui permet soit d'ouvrir des portes, soit de pouvoir taper, je sais pas, un code de carte bleue. C'est pour ça qu'au départ, c'est en tout cas comme ça que je t'ai joint. J'ai trouvé ça assez ingénieux de pouvoir produire ça en plus en Corse. Ce petit objet, est-ce que vous le vendez en fait?
Alors non, on ne le vend pas. En fait, là, si tu veux, tous les objets qu'on fabrique dans une logique de lutte contre donc le virus, oui. on les met en place à titre complètement solidaire et gratuit. Alors ça a ses limites. Tu évoquais les visières. En fait, on a démarré assez tôt, hein, puisque vers le 20 mars, on commençait les protos. Comme tu l'as dit, ensuite, on a coordonné tout un réseau de makers individuels et autres où on est monté au plus fort de la crise sur à l'échelle de la Corse, quasiment 1000 visières par jour, quand vraiment les soignants en première ligne, les aidants étaient vraiment en pleine pénurie. Ensuite, on s'est retrouvé face à plein de gens qui préparaient le déconfinement, plein d'entreprises qui préparaient le déconfinement, et là, ça a été dur de se dire, on continue à faire ça à titre complètement solidaire. Donc, il y a des gens au sein du réseau qui ont mis en place une offre commerciale. Donc, quand ce sont des entreprises, on oriente vers l'offre commerciale, et nous, on continue à le faire à titre solidaire. Donc on ne vend pas, on ne vend ni les visières, on ne vend pas non plus les crochets dont tu parles et sur lesquels on peut revenir. On fabrique aussi, des pieds pour des écrans en plexiglas, tu sais, qui peuvent protéger aussi sur des comptoirs,
oui,
tous les personnels qui vont avoir à faire à des publics. En fait, on n'a pas assez de plexiglas, donc on propose aux entreprises ou collectivités qui en ont besoin de venir avec leur propre plexiglas, et puis nous, on peut leur fabriquer des pieds pour qu'ils puissent poser ça sur des comptoirs ou des tables. Et en fait, toutes ces démarches, on les fait à titre solidaire. Donc on ne vend pas ni les crochets, ni les visières,
ni les
pieds de diaphone.
Alors moi, je ne suis pas du tout économiste, mais comment est-ce que vous fonctionnez alors si vous ne vendez pas vos produits?
Alors là, c'est une période tout à fait exceptionnelle, hein, où du coup, comme je l'ai rapidement évoqué, on est un service de l'université.
D'accord.
Donc le Fab Lab, l'espace de coworking et tout un tas de projets qui en général sont en lien avec des initiatives du territoire, c'est un service de l'université, et l'université de Corse très vite a souhaité apporter une contribution solidaire,
d'accord,
si tu veux, à son territoire. Donc en fait, depuis le début, on a eu carte blanche pour utiliser nos machines, nos personnels et aussi nos stocks de matières premières dans cette logique solidaire. On a même pu année en matière première, pas mal de makers individuels du territoire qui fabriquent des visières, puisqu'on a réussi à faire des commandes au moment où c'était assez difficile d'obtenir de la matière première, et donc du coup on a pu un petit peu en redistribuer sur le territoire, et l'université en fait a souhaité apporter cette contribution. Donc pour ça on a pas du tout la pression. Après, ça n'est pas du tout notre mode de fonctionnement,
d'accord,
habituel, hein,
d'accord,
où on n'est pas, comme je le disais, une entreprise à but lucratif du tout. Mais pour autant, on essaye, en effet, de ne pas être un gouffre non plus pour notre institution. Donc, en général, ça nous arrive de faire effectivement rentrer quelques recettes. Là, c'est tout à fait particulier en ce moment. Voilà.
Tu parlais de troc, il y a aussi, si j'ai bien compris, des échanges de fichiers qui permettent à d'autres personnes qui auraient une imprimante de 3D de réaliser des objets.
Alors ça, c'est même, on va dire, un petit peu au fondement de
l'esprit des
makers. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, les Fab Labs, les makers, fonctionnent vraiment sur une économie du partage. D'accord. Et sur une philosophie du partage. Comme je le disais, on partage des machines, mais ce qui est encore plus profond, en effet, tu parlais d'ADN, hein, donc c'est vraiment voilà, au fondement même, c'est cette notion d'open source, où effectivement, quand on invente quelque chose, on va pas le garder pour soi, mais on va le mettre en effet en accès libre pour tout le monde. Et les visières de protection, voilà, dont vous avez déjà parlé avec Michel, dont on reparlait également à cet instant, ont été fabriquées comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, quand la crise a commencé en Italie, il y a des designers ou des ingénieurs qui ont commencé à tester des choses. Ils ont mis les fichiers en ligne et ensuite tout le monde a pu les utiliser et bien souvent les améliorer. Pour les visières qui ont été fabriquées à l'imprimante 3D, je crois qu'on doit en être à peu près à la 27e ou 28e version, parce qu'il y a eu à chaque fois des petites améliorations.
D'accord.
Et toujours, les makers remettaient en ligne en disant « Mais voilà, moi, ma dernière version avec telle amélioration, elle est disponible. » Nous, on a fait la même chose en adaptant pour notre machine qui était une découpeuse laser, qui permettait d'avoir une plus grande capacité de production. Eh bien, on a mis aussi en ligne nos fichiers. Et là, c'est la même chose avec le crochet ouvre-porte et plus boutons que tu évoquais. Ce sont des fichiers qu'on a pu trouver d'abord en open source et puis qu'on a ensuite adapté à nos machines et qui sera susceptible d'ailleurs de bouger encore si on a des retours d'usagers qui nous disent « Ah, c'est bien, mais peut-être qu'il faudrait agrandir un peu telle dimension, etc. » Et c'est ça qui est super efficace aussi, si tu veux, je pense, dans cette production des makers et des Fab Labs, c'est cette adaptation permanente. Parce qu'en fait, tu peux être très, très réactif. Là, on a bien vu, en fait, à l'échelle nationale, les industriels n'ont pas été capables d'apporter ces réponses. Elles n'ont pas été capables, pendant les 2 mois, de fournir les protections individuelles dont la population avait besoin. Les makers l'ont fait à l'échelle de la France entière. On est à, je crois, plus de 500 000 visières fabriquées par des makers. Et en fait, si eux ont pu le faire, si nous on a pu le faire, c'est qu'il y a cette réactivité, cette possibilité de changer en permanence et d'améliorer en permanence le process. Et bien sûr, de distribuer au plus près des besoins, puisque cette question du circuit court, là aussi, elle est au fondement aussi de nos actions, hein. On est sur de la relocalisation de la production, même si elle est en petite quantité, c'est important de se dire que sur les territoires, il y a une capacité de production.
C'est vraiment génial. Je te le dis. Non, je suis très réactif et très, je suis assez vrai dans ma façon d'être, en tout cas avec les gens, et je trouve ça vraiment, mais c'est génial, génial.
Ben écoute, tant mieux. Moi, je crois beaucoup aussi au circuit court en général. Hein. On l'évoque souvent pour l'agroalimentaire, pour l'agriculture. On sait que c'est souvent ce qu'il y a de plus vertueux, hein, d'aller chercher notre alimentation au plus près, auprès de producteurs qu'on peut identifier, qu'on peut aider, qu'on peut soutenir. Et en fait, c'est un réflexe qu'on pourrait élargir à d'autres modes de consommation et d'autres produits. Et c'est vrai que la production artisanale ou proto-industrielle pourrait être aussi quelque chose qui change un peu la physionomie de l'économie corse, en fait. Hein.
Bien sûr. Alors, il y a une notion qui revenait tout à l'heure, donc c'est le troc. Et c'est vrai que moi, je suis assez partisan de cette manière de fonctionner, de manière moderne. Évidemment, on n'est plus au Moyen-Âge. Justement, comment est-ce que toi, tu vois l'avenir par rapport à... Alors, j'irai pas forcément sanitaire parce qu'évidemment... C'est un peu compliqué et on n'est pas des spécialistes, mais en tout cas, au niveau de l'économie, comment est-ce que tu penses qu'on va s'en sortir et est-ce que, en effet, on n'aurait pas intérêt également dans celle de tous les jours, du quotidien, de travailler de plus en plus sous forme de troc, d'échange?
Oui, moi, je suis une partisane fervente hein, de ces logiques de solidarité, de partage, sans les opposer à une dimension économique. Parce que effectivement, la question de l'économie marchande, elle est aussi très utile. Mais c'est vrai que revenir, en tout cas, moi, je crois beaucoup au local, au retour à une économie réelle locale. Donc relocaliser la production, ça me paraît une voie vraiment intéressante à suivre. Je crois que la crise a été un révélateur de beaucoup de fragilités de nos modes de fonctionnement. Je crois qu'on était déjà nombreux à repérer ces dysfonctionnements et à essayer essayer de mettre en place des alternatives. J'espère, moi, que le monde d'après saura tirer effectivement les leçons et continuera à expérimenter et à renforcer les solutions locales qu'on a vues comme des vrais leviers d'efficacité, quoi. Donc, je sais pas si ce sera effectivement le cas, mais en tout cas, moi, je l'espère, et évidemment, on continuera, nous, à être des fers de lance, hein, de cette nouvelle économie plus collaborative, plus locale. Je crois que ça correspond plus assez bien aussi à notre type de territoire. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que ça va se passer, mais je crois qu'on peut y croire aujourd'hui. On a vu que c'était possible et on a vu que le système classique, hein, j'allais dire, lui, n'a pas fonctionné. Donc ça nous donne peut-être aussi voilà, quelques arguments supplémentaires.
Alors, la fac actuellement, elle est fermée. Elle réouvrira, j'imagine, en septembre.
Alors, la fac est fermée aux étudiants, effectivement, jusqu'en septembre. On va commencer tout doucement à revenir un peu sur nos sites, mais je parle un peu des collègues administratifs. Ça va être assez progressif et l'idée, effectivement, c'est d'essayer de se préparer au mieux pour la rentrée de septembre, qui sera quand même une rentrée très particulière, puisque on pense qu'on ne sera pas tout à fait débarrassé, hein, du virus, tant que de toute façon, il n'y a ni traitement, ni vaccin. Évidemment, ça restera une menace et donc il y aura certainement des adaptations, hein, là aussi, à la rentrée de septembre, entre une présence physique des étudiants et peut-être certains cours qui pourront rester en visio, de façon à éviter qu'il y ait des rassemblements trop importants dans certains amphis, par exemple, tu vois, où il y a d'habitude 200 ou 300 étudiants. Ça, je crois qu'on fera en sorte de l'éviter. L'idée, c'est de se préparer à toute cette rentrée un peu spéciale. Donc, dès la semaine prochaine, en fait, pas mal de collègues reviennent à Corté, en fait, hein, dans leur bureau, même si ça va être en alternance entre le télétravail et une présence physique.
Je te parlais de la rentrée de la fac parce que, comme tu disais, donc le Fab Lab est inclus dans ce système universitaire. Est-ce que vous, vous suivez en fait la rentrée de septembre ou vous allez réouvrir vos portes avant? Et est-ce que tout le monde a accès au Fab Lab? Est-ce que même moi, en tant que visiteur, par exemple, je peux venir voir ce que vous faites?
Alors, en temps normal, c'est ouvert à tout le monde. D'accord. Effectivement, on est un service de l'université, mais l'université met ce service à disposition de tout le monde. Donc, effectivement, on a d'ailleurs beaucoup de créateurs qui viennent en mode général, c'est notre mode de fonctionnement. Alors, maintenant, pour te répondre par rapport à une réouverture de nos portes sur cette période très particulière, on n'a pas encore assez de visibilité pour annoncer vraiment une date de réouverture. Je pense qu'on ne pourra pas de toute façon être rouvert complètement au public comme on l'était précédemment avant septembre, nous non plus. On essaiera peut-être de mettre en place quelques petit dispositif pour des gens qui utilisent en fait nos machines comme leur propre atelier, puisque c'est le cas de certains créateurs, de certains artisans, de certains entrepreneurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va essayer d'organiser, mais c'est vrai que ça se fait de façon là aussi très prudente. Donc pour le moment, pas vraiment de date. Ce qu'on a commencer à proposer pour ceux qui ont vraiment besoin de nos machines, c'est éventuellement de réaliser, nous, à leur place, certaines découpes ou certaines fabrications. Peut-être qu'on va pouvoir un petit peu dépanner de cette façon-là. Mais c'est encore un peu en construction. Et en plus, là, on est encore assez focalisé sur la fabrication de visières, de crochets et de pieds pour les écrans en plexiglas. Donc, on se donne encore un petit peu de temps avant d'évoquer de façon plus officielle ces possibilités.
Si les gens qui nous écoutent veulent en savoir plus sur le Fab Lab, où est-ce qu'ils peuvent aller? Est-ce qu'il y a une page Facebook ou un site internet?
Oui, tout à fait. Écoute, il y a une page Facebook, une page Instagram, une page Twitter, un site internet aussi, hein, qui est Fab Lab Cort. Donc, a priori, il y a pas mal d'infos sur tout ça. Et on est assez réactifs, je pense, là aussi, si les gens essayent de nous joindre, par exemple, sur les réseaux sociaux, en message privé, etc. Surtout en ce moment où on a eu beaucoup de commandes pour les visières, j'ai essayé d'être assez attentive. Et je pense qu'on a négligé aucun message. Donc, effectivement, n'hésitez pas.
Vanina Bernard Léoni, merci pour cette petite interview sur Radio Calvi Citadel. Longue vie au Fab Lab à Corté.
Merci beaucoup, en tout cas, de ton invitation et de ton enthousiasme.
Et à très bientôt, Vanina. Merci.
À bientôt. Au revoir.